Chapitre 20. Mort de Mirabeau. Un grand seigneur brabançon, d'un esprit sage et pénétrant, était l'intermédiaire entre la cour et Mirabeau. Il avait obtenu de lui de se concerter secrètement par lettre avec le marquis de Bouillé, le général en qui la famille royale avait le plus de confiance. Il paraît que le projet de Mirabeau était de conduire le roi à Compiègne, au milieu des régiments dont M. de Bouillé se croyait sûr, et d'y appeler l'Assemblée constituante pour la dégager de l'influence de Paris et la soumettre à celle de la cour. Mais en même temps, Mirabeau avait l'intention de faire adopter la constitution anglaise, car jamais un homme vraiment supérieur ne souhaitera le rétablissement du pouvoir arbitraire. Un caractère ambitieux pourrait se complaire dans ce pouvoir, s'il était sûr d'en disposer toute sa vie. Mais Mirabeau savait très bien que, parvint-il à relever en France la monarchie sans limite, la direction de cette monarchie ne lui serait pas longtemps accordée par la cour. Et il voulait le gouvernement représentatif, dans lequel les hommes de talent, étant toujours nécessaires, sont toujours considérés. J'ai eu entre les mains une lettre de Mirabeau, écrite pour être montrée au roi. Il y offrait tous ses moyens pour rendre à la France une monarchie forte et digne, mais limitée. Il se servait entre autres de cette expression remarquable. « Je ne voudrais pas avoir travaillé seulement à une vaste destruction. » Toute la lettre faisait honneur à la justesse de sa manière de voir. Sa mort fut un grand mal à l'époque où elle arriva. Une supériorité transcendante dans la carrière de la pensée offre toujours de grandes ressources. « Vous avez trop d'esprit, » disait un jour M. Necker à Mirabeau, « pour ne pas reconnaître tôt ou tard que la morale est dans la nature des choses. » Mirabeau n'était pas encore tout à fait un homme de génie, mais il en approchait à force de talent. Je l'avouerai donc, malgré les torts affreux de Mirabeau, malgré le juste ressentiment que j'avais des attaques qu'il s'était permises contre mon père en public, car dans l'intimité il n'en parlait jamais qu'avec admiration, sa mort me frappa douloureusement, et tout Paris éprouva la même impression. Pendant sa maladie, une foule immense se rassemblait chaque jour et à chaque heure devant sa porte. Cette foule ne faisait pas le moindre bruit, dans la crainte de l'incommoder. Elle se renouvelait plusieurs fois pendant le cours des 24 heures, et des individus de différentes classes se conduisaient tous avec les mêmes égards. Un jeune homme, ayant ouï dire que si l'on introduisait du sang nouveau dans les veines d'un mourant, il revivrait, vint s'offrir pour sauver la vie de Mirabeau aux dépens de la sienne. On ne peut voir, sans être attendri, les hommages rendus au talent. Ils diffèrent tant de ceux qu'on prodigue à la puissance. Mirabeau savait qu'il allait mourir. Dans cet instant, loin de s'affliger, il s'enorgueillissait. On tirait le canon pour une cérémonie. Il s'écria « J'entends déjà les funérailles d'Achille ». En effet, un orateur intrépide qui défendrait avec constance la cause de la liberté pourrait se comparer à un héros. « Après ma mort, dit-il encore, les factieux se partageront les lambeaux de la monarchie. » Il avait conçu le projet de réparer beaucoup de maux, mais il ne lui fut pas accordé d'expier lui-même ses fautes. Il souffrait cruellement dans les derniers jours de sa vie, et ne pouvant plus parler, il écrivait à Cabanis, son médecin, pour en obtenir de l'opium, ces mots de Hamlet. « Mourir, c'est dormir. » Les idées religieuses ne vinrent point à son secours. Il fut atteint par la mort dans la plénitude des intérêts de ce monde, et lorsqu'il se croyait près du terme où son ambition aspirait. Il y a dans la destinée de tous les hommes, quand on se donne la peine d'y regarder, la preuve manifeste d'un but moral et religieux, dont ils ne se doutent pas toujours eux-mêmes, et vers lequel ils marchent à leur insu. Tous les partis regrettaient alors Mirabeau. La cour se flattait de l'avoir gagné. Les amis de la liberté comptaient néanmoins sur son secours. Les uns se disaient qu'avec une telle hauteur de talent, il ne pouvait désirer l'anarchie, puisqu'il n'avait pas besoin de la confusion pour être le premier. Et les autres étaient certains qu'il souhaitait des institutions libres, puisque la valeur personnelle n'est à sa place que là où elles existent. Enfin, il mourut dans le moment le plus brillant de sa carrière, et les larmes du peuple qui accompagnait son enterrement en rendirent la pompe très touchante. C'était la première fois en France qu'un homme célèbre par ses écrits et par son éloquence recevait des honneurs qu'on n'accordait jadis qu'aux grands seigneurs ou aux guerriers. Le lendemain de sa mort, personne dans l'Assemblée constituante ne regardait sans tristesse la place où Mirabeau avait coutume de s'asseoir. Le grand chêne était tombé, le reste ne se distinguait plus. Je me reproche d'exprimer ainsi des regrets pour un caractère peu digne d'estime, mais tant d'esprit est si rare, et il est malheureusement si probable qu'on ne verra rien de pareil dans le cours de sa vie, qu'on ne peut s'empêcher de soupirer lorsque la mort ferme ses portes d'airain sur un homme naguère si éloquent, si animé, enfin si fortement en possession de la vie. Chapitre 21. Départ du roi le 21 juin 1791. Louis XVI aurait accepté de bonne foi la constitution anglaise si elle lui avait été présentée réellement et avec le respect qu'on doit au chef de l'État. Mais l'on blessa toutes ses affections, surtout par trois décrets qui étaient plutôt nuisibles qu'utiles à la cause de la nation. On abolit le droit de faire grâce, ce droit qui doit exister dans toute société civilisée et qui ne peut appartenir qu'à la couronne dans une monarchie. On exigea des prêtres un serment à la constitution civile du clergé, sous peine de la perte de leurs appointements, et l'on voulut ôter la régence à la reine. Le plus grand tort, peut-être, de l'Assemblée constituante fut, comme nous l'avons déjà dit, de vouloir créer un clergé dans sa dépendance, ainsi que l'ont fait plusieurs souverains absolus. Elle s'écarta dans ce but du système parfait de raison sur lequel elle devait s'appuyer. Elle provoqua la conscience et l'honneur des ecclésiastiques à résister. Or, les amis de la liberté s'égarent toutes les fois qu'on peut les combattre avec des sentiments généreux. Car la vraie liberté ne saurait avoir d'opposant que parmi ceux qui veulent usurper ou servir. Et cependant, le prêtre, qui refusait un serment théologique exigé par la menace, agissait plus en homme libre que ceux qui tâchaient de le faire mentir à son opinion. Enfin, le troisième décret, celui de la régence, ayant pour but d'écarter la reine, qui était suspecte au parti populaire, devait, par divers motifs, offenser personnellement Louis XVI. Ce décret le déclarait « premier fonctionnaire public », titre très inconvenable pour un roi, car tout fonctionnaire doit être responsable, et il faut nécessairement faire entrer dans la monarchie héréditaire un sentiment de respect qui s'allie avec l'inviolabilité de la personne du souverain. Ce respect n'exclut pas le pacte mutuel entre le roi et la nation, pacte qui de tout temps a existé, soit tacitement, soit authentiquement. Mais la raison et la délicatesse peuvent toujours s'accorder quand on le veut réellement. Le second article du décret sur la régence était condamnable par des motifs semblables à ceux que nous avons déjà énoncés. On y déclarait que le roi serait déchu du trône s'il sortait de France. C'était prononcer ce qui ne doit pas être prévu, le cas où l'on pourrait destituer un roi. Les vertus et les institutions républicaines élèvent très haut les peuples à qui leur situation permet d'en jouir. Mais dans les États monarchiques, le peuple se déprave si on l'accoutume à ne pas respecter l'autorité qu'il a reconnue. Un code pénal contre un monarque est une idée sans application, que ce monarque soit fort ou qu'il soit faible. Dans le second cas, le pouvoir qui le renverse ne s'en tient pas à la loi, de quelque manière qu'on l'ait conçue. C'est donc sous le seul rapport de la prudence qu'on doit juger le parti que prit le roi en s'échappant des Tuileries, le 21 juin 1791. On avait certes assez de torts envers lui, à cette époque, pour qu'il eût le droit de quitter la France, et peut-être rendait-il un grand service aux amis même de la liberté en faisant cesser une situation hypocrite, car leur cause était gâtée par les vains efforts qu'ils faisaient pour persuader à la nation que les actes politiques du roi depuis son arrivée à Paris était volontaire quand on voyait clairement qu'il ne l'était pas. M. Fox me dit en Angleterre en 1793 qu'à l'époque du départ du roi pour Varennes, il aurait souhaité qu'on le laissât sortir en paix et que l'Assemblée constituante proclamât la République. La France au moins ne se serait pas souillée des crimes commis depuis envers la famille royale. Et soit que la République pût ou non réussir dans un grand État, il valait toujours mieux que d'honnêtes gens en fissent l'essai. Mais ce qu'on devait craindre le plus arriva, l'arrestation du roi et de sa famille. Un voyage qui exigeait tant d'adresse et de rapidité fut arrangé presque comme dans un temps ordinaire. Et l'étiquette est si puissante dans les cours qu'on ne put pas s'en débarrasser même dans la plus périlleuse des circonstances. Il advint de là que l'entreprise manqua. Quand l'Assemblée constituante apprit le départ du roi, son attitude fut très ferme et très convenable. Ce qui lui avait manqué jusqu'à ce jour, c'était un contrepoids à sa toute-puissance. Malheureusement, les Français n'apprennent, en politique, la raison que par la force. Une idée vague de danger planait sur l'Assemblée. Il se pouvait que le roi se rendît à Montmédy, comme il en avait le dessein, et qu'il fût aidé par des troupes étrangères. Il se pouvait qu'un grand parti se déclarât pour lui dans l'intérieur. Enfin, les inquiétudes faisaient cesser les exagérations, et parmi les députés du Parti populaire, tels qui avaient crié à la tyrannie quand on lui proposait la constitution anglaise, y auraient souscrit bien volontiers alors. Jamais on ne saurait se consoler de l'arrestation du roi à Varennes. Des fautes irréparables, des forfaits dont on doit longtemps rougir, ont altéré le sentiment de la liberté dans les âmes les plus faites pour l'éprouver. Si le roi avait passé la frontière, peut-être une constitution raisonnable serait-elle sortie de la lutte entre les deux parties. Il fallait avant tout, s'écriera-t-on, éviter la guerre civile. Avant tout, non, beaucoup d'autres fléaux sont encore plus à craindre. Des vertus généreuses se développent dans ceux qui combattent pour leur opinion, et il est plus naturel de verser son sang en la défendant que pour l'un des milliers d'intérêts politiques, causes habituelles des guerres. Sans doute il est cruel de se battre contre ses concitoyens, mais il est bien plus horrible encore d'être opprimé par eux. Et ce qu'il faut surtout éviter à la France, c'est le triomphe complet d'un parti. Car une longue habitude de la liberté est nécessaire pour que le sentiment de la justice ne soit point altéré par l'orgueil de la puissance. Le roi laissa en s'en allant un manifeste qui contenait les motifs de son départ. Il rappelait les traitements qu'on lui avait fait éprouver et déclarait que son autorité était tellement réduite qu'il n'avait plus les moyens de gouverner. Au milieu de ces plaintes si légitimes, il ne fallait pas insérer quelques observations trop minutieuses sur le mauvais état du château des Tuileries. Il est très difficile aux souverains héréditaires de ne pas se laisser dominer par les habitudes, dans les plus petites comme dans les plus grandes circonstances de leur vie. Mais c'est peut-être pour cela même qu'ils sont plus propres que les chefs électifs au règne des lois et de la paix. Le manifeste de Louis XVI finissait par cette assurance mémorable qu'en recouvrant son indépendance, il voulait la consacrer à fonder la liberté du peuple français sur des bases inébranlables. Tel était le mouvement des esprits alors, que personne, ni le roi lui-même, n'envisageait comme possible le rétablissement d'une monarchie sans limite. Dès que l'on sut dans l'Assemblée que la famille royale avait été arrêtée à Varennes, on y envoya des commissaires, parmi lesquels étaient Pétion et Barnave. Pétion, homme sans lumière et sans élévation d'âme, vit le malheur des plus touchantes victimes sans en être ému. Barnave sentit une respectueuse pitié pour le sort de la reine, en particulier. Et dès cet instant, lui, Duport, Lamette, Regnault de Saint-Jean d'Angély, Chapelier, Touret, etc., réunirent tous leurs moyens à ceux de M. de Lafayette pour relever la monarchie renversée. Le roi et sa famille firent, à leur retour de Varennes, leur entrée funèbre dans Paris. Les habits de la reine et ceux du roi étaient couverts de poussière. Les deux enfants de la race royale regardaient avec étonnement ce peuple entier qui se montrait en maître devant ses maîtres abattus. Madame Élisabeth paraissait au milieu de cette illustre famille comme un être déjà sanctifié, qui n'a plus rien de commun avec la terre. Trois gardes du corps, placés sur le siège de la voiture, se voyaient exposés à chaque instant au risque d'être massacrés, et des députés de l'Assemblée constituante se mirent plusieurs fois entre eux et les furieux qui voulaient les faire périr. C'est ainsi que le roi retourna dans le palais de ses pères. Hélas, quel triste présage! Et comme il fut accompli! Chapitre 22. Révision de la Constitution. L'Assemblée se vit forcée, par le mouvement populaire, à déclarer que le roi serait tenu prisonnier dans le château des Tuileries, jusqu'à ce qu'on eût présenté la Constitution à son acceptation. Monsieur de Lafayette, comme chef de la garde nationale, eut le malheur d'être condamné à l'exécution de ce décret. Mais si, d'une part, il plaçait des sentinelles aux portes du palais du roi, de l'autre, il s'opposait avec une énergie consciencieuse au parti qui voulait faire prononcer sa déchéance. Il employa, contre ceux qui la demandaient, la force armée dans le Champ de Mars. Et il prouva du moins ainsi que ce n'était point par des vues ambitieuses qu'il s'exposait à déplaire au monarque, puisqu'en même temps il provoquait contre lui-même la haine des ennemis du trône. Il me semble que la seule manière de juger avec équité le caractère d'un homme, c'est d'examiner s'il n'y a point de calcul personnel dans sa conduite. S'il n'y en a point, l'on peut blâmer sa manière de voir, mais l'on n'en est pas moins obligé de l'estimer. Le parti républicain est le seul qui se soit montré lors de l'arrestation du roi. Le nom du duc d'Orléans ne fut pas seulement prononcé, personne n'osa songer à un autre roi que Louis XVI, et du moins lui rendit-on l'hommage de ne lui opposer que des institutions. Enfin, la personne du monarque fut déclarée inviolable. On spécifia les cas dans lesquels la déchéance serait prononcée. Mais si l'on détruisait ainsi le prestige dont on doit entourer la personne du roi, on s'engageait d'autant plus à respecter la loi qui lui garantissait l'inviolabilité dans toutes les suppositions possibles. L'Assemblée constituante a toujours cru, bien à tort, qu'il y avait quelque chose de magique dans ces décrets, et qu'on s'arrêterait, en tout, juste à la ligne qu'elle aurait tracée. Mais son autorité, sous ce rapport, ressemblait à celle du ruban qu'on avait tendu dans le jardin des Tuileries pour empêcher le peuple de s'approcher du palais. Tant que l'opinion fut favorable à ceux qui avaient tendu ce ruban, personne n'imagina de passer outre. Mais dès que le peuple ne voulut plus de la barrière, elle ne signifia plus rien. On trouve dans quelques constitutions modernes, comme article constitutionnel, le gouvernement sera juste et le peuple obéissant. S'il était possible de commander un tel résultat, la balance des pouvoirs serait bien inutile. Mais pour arriver à mettre les bonnes maximes en exécution, il faut combiner les institutions de manière que chacun trouve son intérêt à les maintenir. Les doctrines religieuses peuvent se passer de l'intérêt personnel pour commander aux hommes, et c'est en cela surtout qu'elles sont d'un ordre supérieur. Mais les législateurs, chargés des intérêts de ce monde, tombent dans une sorte de duperie quand ils font entrer les sentiments patriotiques comme un ressort nécessaire dans leur machine sociale. C'est méconnaître l'ordre naturel des événements que de compter sur les effets pour organiser la cause. Les peuples ne deviennent pas libres parce qu'ils sont vertueux, mais parce qu'une circonstance heureuse, ou plutôt une volonté forte, les mettant en possession de la liberté, ils acquièrent les vertus qui en dérivent. Les lois dont dépend la liberté civile et politique se réduisent à un très petit nombre, et ce décalogue politique mérite seul le nom d'article constitutionnel. Mais l'Assemblée nationale a donné ce titre à presque tous ses décrets, soit qu'elle voulût ainsi se soustraire à la sanction du roi, soit qu'elle se fît une sorte d'illusion d'auteur sur la perfection et la durée de son propre ouvrage. Les hommes sensés, cependant, parvinrent à faire diminuer le nombre d'articles constitutionnels. Mais une discussion s'éleva pour savoir si l'on ne déciderait pas que tous les 20 ans, une nouvelle assemblée constituante se réunirait pour réviser la constitution qu'on venait d'établir. Bien entendu que dans cet intervalle, on n'y changerait rien. Quelle confiance dans la stabilité d'un tel ouvrage ! Et comme elle a été trompée ! Enfin, l'on décréta qu'aucun article constitutionnel ne pourrait être modifié que sur la demande de 3 assemblées consécutives. C'était se faire une étonnante idée de la patience humaine sur des objets d'une telle importance. Les Français, d'ordinaire, ne voient guère dans la vie que le réel des choses. Et ils tournent assez volontiers en dérision les principes s'ils leur paraissent un obstacle au succès momentané de leurs désirs. Mais l'Assemblée constituante, au contraire, fut dominée par la passion des idées abstraites. Cette mode, tout à fait opposée à l'esprit de la nation, ne dura pas longtemps. Les factieux se servirent d'abord des arguments métaphysiques pour motiver les actions les plus coupables, et puis ils renversèrent bientôt après cet échafaudage pour proclamer nettement l'empire des circonstances et le mépris des doctrines. Le côté droit de l'Assemblée avait eu souvent raison pendant le cours de la session, et plus souvent encore on s'était intéressé à lui parce que le parti le plus fort l'opprimait et lui refusait la parole. Il n'est pas de pays où il soit plus nécessaire qu'en France de faire des règlements dans les assemblées délibérantes en faveur de la minorité, car on y a tant de goût pour la puissance qu'on est tenté de vous imputer à crime d'être du parti le moins nombreux. Note. Un ouvrage excellent intitulé « Tactique des assemblées délibérantes » rédigé par M. Dumont de Genève et contenant en partie les idées de M. Bentham, jurisconsulte anglais, penseur très profond, devrait être sans cesse consulté par nos législateurs. Car il ne suffit pas d'enlever une délibération dans une chambre. Il faut que le parti le plus faible ait été patiemment entendu. Tel est l'avantage et le droit du gouvernement représentatif. Après l'arrestation du roi, les aristocrates, sachant que la monarchie avait acquis des défenseurs dans le parti populaire, crurent plus sage de les laisser agir et de se mettre moins en avant eux-mêmes. Les députés convertis firent ce qu'ils purent pour augmenter l'autorité du pouvoir exécutif, mais ils n'osèrent pas cependant aborder les questions dont la décision aurait pu seule raffermir l'état politique de la France. On craignait de parler de 2 chambres comme d'une conspiration. Le droit de dissoudre le corps législatif, si nécessaire au maintien de l'autorité royale, ne lui fut point accordé. On effrayait les hommes raisonnables en les appelant des aristocrates. Cependant, les aristocrates n'étaient point redoutables, alors. C'est à cause de cela même qu'on avait fait une injure de ce nom. Dans ce temps, comme depuis, on a toujours eu en France l'art de faire porter les inquiétudes sur les vaincus. On dirait que les faibles sont seuls à craindre. C'est un bon prétexte pour accroître la puissance des vainqueurs que d'exagérer les moyens de leurs adversaires. Il faut se créer des ennemis en effigie, si l'on veut exercer son bras à frapper fort. La majorité de l'Assemblée croyait contenir les Jacobins, et cependant elle composait avec eux, et perdait du terrain à chaque victoire. Aussi fit-elle une constitution comme un traité entre 2 parties, et non comme une œuvre pour tous les temps. Les auteurs de cette constitution lancèrent à la mer un vaisseau mal construit, et crurent justifier chaque faute en citant la volonté d'un tel homme ou le crédit de tel autre. Mais les flots de l'océan que le navire devait traverser ne se prêtaient point à de tels commentaires. Cependant, quel parti prendre, dira-t-on, quand les circonstances étaient défavorables à ce qu'on croyait la raison. Résister, toujours résister, et prendre son point d'appui en soi-même. C'est aussi une circonstance que le courage d'un honnête homme, et personne ne saurait prévoir ce qu'elle peut entraîner. Si 10 députés du Parti populaire, si 5, si 3, si même 1 seul, avaient fait sentir tous les malheurs qui devaient résulter d'une œuvre politique sans défense contre les factions. S'il avait adjuré l'Assemblée, au nom des principes admirables qu'elle avait décrétés et des préjugés qu'elle avait renversés, de ne pas mettre au hasard tant de biens, formant le trésor de la raison humaine. Si l'inspiration de la pensée avait révélé à quelque orateur comment on allait livrer le saint nom de la liberté à l'association funeste des plus cruels souvenirs, peut-être un seul homme eût-il fait reculer la destinée. Mais les applaudissements ou les murmures des tribunes influaient sur des questions qui auraient dû être discutées dans le calme par les hommes les plus éclairés et les plus réfléchis. La fierté qui fait résister à la multitude est d'un autre genre que celle qui rend indépendant d'un despote. Néanmoins, le même mouvement de sang sert à lutter contre tous les genres d'oppression. Il ne restait plus qu'un moyen de réparer les erreurs des lois. C'était le choix des hommes. Les députés, qui devaient succéder à l'Assemblée constituante, pouvaient recommencer des travaux imparfaits et rectifier par un esprit sage les fautes déjà commises. Mais d'abord on repoussa la condition de propriété, nécessaire pour resserrer l'élection dans la classe de ceux qui ont intérêt au maintien de l'ordre. Robespierre, qui devait jouer un si grand rôle dans le règne du sang, s'éleva contre cette condition, à quelque degré qu'elle fût fixée, comme contre une injustice. Il mit en avant la Déclaration des droits de l'homme relativement à l'égalité, comme si cette égalité, même dans son sens le plus étendu, admettait la faculté de tout obtenir sans talent et sans travail. Car s'arroger des droits politiques sans aucun titre pour les exercer, c'est aussi une usurpation. Robespierre joignait de la métaphysique obscure à des déclamations communes, et c'était ainsi qu'il se faisait de l'éloquence. On a composé pour lui de meilleurs discours quand il a été puissant, mais pendant l'Assemblée constituante, personne ne faisait attention à lui, et chaque fois qu'il montait à la tribune, les démocrates de bon goût étaient bien aises de le tourner en ridicule pour se donner l'air d'un parti modéré. On décréta qu'une imposition d'un marc d'argent, c'est-à-dire de 54 livres, serait nécessaire pour être député. C'en était assez pour provoquer des complaintes à la tribune sur tous les cadets de famille, sur tous les hommes de génie qui seraient exclus, par leur pauvreté, de la représentation nationale. Et cela ne suffisait pas néanmoins pour borner les choix du peuple à la classe des propriétaires. L'Assemblée constituante, pour remédier à cet inconvénient, établit 2 degrés d'élection. Elle décréta que le peuple élirait des électeurs qui choisiraient les députés. Cette gradation devait sans doute amortir l'action de l'élément démocratique, et les chefs révolutionnaires l'ont pensé, puisqu'ils l'abolirent quand ils furent les maîtres. Mais le choix direct du peuple, soumis à une juste condition de propriété, est infiniment plus favorable à l'énergie des gouvernements libres. L'élection immédiate, telle qu'elle existe en Angleterre, peut seule faire pénétrer dans toutes les classes l'esprit public et l'amour de la patrie. La nation s'attache à ses représentants quand c'est elle-même qui les a choisis, mais lorsqu'elle doit se borner à élire ceux qui doivent élire à leur tour, cette combinaison artificielle refroidit son intérêt. D'ailleurs, les collèges électoraux, par cela seul qu'ils sont composés d'un petit nombre d'hommes, prêtent bien plus à l'intrigue que les grandes masses. Ils prêtent surtout à cette sorte d'intrigue bourgeoise si avilissante, où l'on voit les hommes du tiers-état venir demander aux grands seigneurs de placer leurs fils dans les antichambres de la cour. Dans les gouvernements libres, le peuple doit se rallier à la première classe en y prenant ses représentants. Et la première classe doit chercher à plaire au peuple par des talents et des vertus. Ce double lien n'a presque plus de force quand l'acte de choisir passe à travers 2 degrés. On détruit ainsi la vie pour se préserver du trouble. Il vaut bien mieux, comme en Angleterre, balancer sagement l'élément démocratique par l'élément aristocratique, mais laisser à tous les deux leur indépendance naturelle. M. Necker a proposé dans son dernier ouvrage « Dernière vue de politique et de finances » une manière nouvelle d'établir les deux degrés d'élection. Il pense que ce devrait être au collège électoral à donner la liste d'un certain nombre de candidats, entre lesquels les assemblées primaires pourraient choisir. Les motifs de cette institution sont développés d'une manière ingénieuse dans le livre de M. Necker. Mais ce qui est évident, c'est qu'il a cru toujours nécessaire que le peuple exerçât pleinement son droit et son jugement, et que les hommes distingués eussent un constant intérêt à captiver son suffrage. Les réviseurs de la Constitution, en 1791, étaient accusés sans cesse par les Jacobins d'être partisans du despotisme, lors même qu'ils en étaient réduits à chercher des détours pour parler du pouvoir exécutif, comme si le nom d'un roi ne pouvait se prononcer dans une monarchie. Néanmoins, les constituants seraient peut-être encore parvenus à sauver la France, s'ils eussent été membres de l'Assemblée suivante. Les députés les plus éclairés sentaient ce qui manquait à la Constitution qu'on venait de terminer à coups d'événements. Ils auraient tâché de l'amender en l'interprétant. Mais le parti de la médiocrité, qui compte tant de soldats dans tous les rangs, ce parti qui hait les talents, comme les amis de la liberté haïssent les despotes, parvint à faire interdire par un décret aux députés de l'Assemblée constituante la possibilité d'être réélus. Les aristocrates et les jacobins, qui avaient joué un rôle très inférieur pendant la session, ne se flattaient pas d'être nommés une seconde fois. Ils trouvaient donc du plaisir à empêcher ceux qui étaient assurés du suffrage de leurs concitoyens d'occuper des places dans l'Assemblée suivante. Car de toutes les lois agraires, celle qui plairait le plus au commun des hommes, ce serait la division des suffrages publics en portions égales, dont le talent ne put jamais obtenir un plus grand nombre que la médiocrité. Beaucoup d'individus croiraient y gagner, mais l'émulation, qui enrichit l'espèce humaine, y perdrait tout. Vainement les premiers orateurs de l'Assemblée tâchaient-ils de faire sentir que des successeurs tout nouveaux, et choisis dans un temps de trouble, seraient ambitieux de faire une révolution non moins éclatante que celle qui avait signalé leurs prédécesseurs. Les membres de l'extrémité du côté gauche, d'accord avec l'extrémité du côté droit, criaient que leurs collègues voulaient accaparer le pouvoir. Et des députés ennemis jusqu'alors, les jacobins et les aristocrates, se touchaient la main de joie en pensant qu'ils auraient le bonheur d'écarter des hommes dont la supériorité les offusquait depuis 2 années. Quelle faute d'après les circonstances, mais aussi quelle erreur de principe que d'interdire au peuple le choix de ceux qui ont déjà mérité sa confiance. Dans quel pays trouve-t-on une assez grande quantité d'individus capables pour que l'on puisse arbitrairement écarter les hommes déjà connus, déjà éprouvés et qui ont acquis l'expérience des affaires? Rien ne coûte plus à l'État que ces députés qui ont à se créer une fortune nouvelle en fait de réputation. Les propriétaires en ce genre aussi doivent être préférés à ceux qui ont besoin de s'enrichir. Chapitre 23. Acceptation de la Constitution appelée Constitution de 1791. Ainsi finit cette fameuse assemblée qui réunit tant de lumière à tant d'erreurs, qui a fait un bien durable, mais un grand mal immédiat, et dont le souvenir servira longtemps encore de prétexte aux attaques des ennemis de la liberté. Voyez, disait-il, ce qu'ont produit les délibérations des hommes les plus éclairés de France. Mais aussi pourrait-on leur répondre, songez à ce que doivent être les hommes qui, n'ayant jamais exercé aucun droit politique, se trouvent tout à coup en possession d'une jouissance funeste à tous les individus, le pouvoir sans borne. Ils seront longtemps avant de savoir qu'une injustice soufferte par un citoyen quelconque, ami ou ennemi de la liberté, retombe sur la tête de tous. Ils seront longtemps avant de connaître la théorie de la liberté, si simple quand on est né dans un pays où les lois et les mœurs vous l'enseignent. C'est difficile quand on a vécu sous un gouvernement arbitraire, où rien ne se décide que par les circonstances, et où les principes leur sont toujours soumis. Enfin, dans tous les temps et dans tous les pays, faire passer une nation du gouvernement des cours à celui de la loi, c'est une crise de la plus grande difficulté, lors même que l'opinion la rend inévitable. L'histoire doit donc considérer l'Assemblée constituante sous deux points de vue, les abus qu'elle a détruits et les institutions qu'elle a créées. Sous le premier rapport, elle a de grands droits à la reconnaissance de la race humaine. Sous le second, les plus graves erreurs peuvent lui être reprochées. Sur la proposition de M. de Lafayette, une amnistie générale fut accordée à tous ceux qui avaient pris part au voyage du roi, ou commis ce qu'on peut appeler des délits politiques. Il fit décréter aussi que tout individu pourrait sortir de France et y rentrer sans passeport. L'émigration était alors déjà commencée. Je distinguerai, dans le chapitre suivant, l'émigration politique de l'émigration nécessaire, qui eut lieu plus tard. Mais ce qu'il importe de remarquer, c'est que l'Assemblée constituante rejeta toutes les mesures qui lui furent proposées pour entraver la liberté civile. La minorité de la noblesse avait cet esprit de justice, inséparable du désintéressement. Parmi les députés du tiers-État, Dupont de Nemours, qui a survécu malgré son courage, Touret, Barnave, Chapelier et tant d'autres, qui ont péri victimes de leurs excellents principes, ne portaient certainement dans les délibérations que les intentions les plus pures. Mais la majorité tumultueuse et ignorante eut le dessus dans les décrets relatifs à la Constitution. On était assez éclairé en France sur tout ce qui concernait l'ordre judiciaire et l'administration. Mais la théorie des pouvoirs exigeait des connaissances plus approfondies. C'était donc le plus pénible des spectacles intellectuels que de voir les bienfaits de la liberté civile mis sous la sauvegarde d'une liberté politique sans mesure et sans force. Cette malheureuse constitution, si bonne par ses bases, et si mauvaise par son organisation, fut présentée à l'acceptation du roi. Il ne pouvait certainement pas la refuser, puisqu'elle terminait sa captivité, mais on se flatta que son consentement était volontaire. On fit des fêtes comme si l'on s'était cru heureux. L'on commanda des réjouissances pour se persuader que les dangers étaient passés. Les mots de roi, d'assemblée représentative, de monarchie constitutionnelle, répondait aux véritables vœux de tous les Français. On crut avoir atteint la réalité des choses, dont on n'avait obtenu que le nom. On pria le roi et la reine d'aller à l'opéra. Leur entrée y fut célébrée par des applaudissements sincères et universels. On donnait le ballet de Psyché, au moment où les furies dansaient en secouant leurs flambeaux, où cet éclat d'incendie se répandait dans toute la salle. Je vis le visage du roi et de la reine à la pâle lueur de cette imitation des enfers, et des pressentiments funestes sur l'avenir me saisirent. La reine s'efforçait d'être aimable, mais on apercevait une profonde tristesse à travers son obligeant sourire. Le roi, comme à son ordinaire, semblait plus occupé de ce qu'il voyait et de ce qu'il éprouvait. Il regardait de tous les côtés avec calme, et l'on eût dit même avec insouciance. Il s'était habitué, comme la plupart des souverains, à contenir l'expression de ses sentiments, et peut-être en avait-il ainsi diminué la force. L'on alla se promener après l'opéra dans les Champs-Élysées, qui étaient superbement illuminés, le palais et le jardin des Tuileries n'en étant séparés que par la fatale place de la Révolution. L'illumination de ce palais et du jardin se joignait admirablement à celle des longues allées des Champs-Élysées, réunies entre elles par des guirlandes de lumière. Le roi et la reine se promenaient lentement dans leur voiture, au milieu de la foule, et chaque fois qu'on apercevait cette voiture, on criait « Vive le roi !» Mais c'étaient les mêmes gens qui avaient insulté le même roi à son retour de Varennes, ils ne se rendaient pas mieux compte de leurs applaudissements que de leurs outrages. Je rencontrai en me promenant quelques membres de l'Assemblée constituante. Ils ressemblaient à des souverains détrônés, très inquiets de leurs successeurs. Certes, chacun aurait souhaité, comme eux, qu'ils fussent chargés de maintenir la Constitution telle qu'elle était, car on en savait assez déjà sur l'esprit des élections pour ne pas se flatter d'une amélioration dans les affaires. Mais on s'étourdissait par le bruit qu'on entendait de toutes parts. Le peuple chantait, et les colporteurs de journaux faisaient retentir les airs en proclamant à haute voix la grande acceptation du roi, la constitution monarchique, etc., etc. Il semblait que la révolution fût achevée et la liberté fondée. Toutefois, l'on se regardait les uns les autres, comme pour obtenir de son voisin la sécurité dont on manquait soi-même. L'absence des nobles surtout ébranlait cette sécurité, car il ne peut exister de monarchie sans que la classe aristocratique en fasse partie, et malheureusement les préjugés des gentilshommes français étaient tels qu'ils repoussaient toute espèce de gouvernement libre. C'est à cette grande difficulté qu'il faut attribuer les défauts les plus graves de la Constitution de 1791. Car les seigneurs propriétaires n'offrant aucun soutien à la liberté, la force démocratique a pris nécessairement le dessus. Les barons anglais, dès le temps de la Grande Charte, ont stipulé les droits des communes conjointement avec les leurs. En France, les nobles ont combattu ces droits quand le tiers-état les a réclamés, mais n'étant pas assez forts pour lutter contre la nation, ils ont quitté leur pays en masse et sont allés se joindre aux étrangers. Cette résolution funeste a rendu alors la monarchie constitutionnelle impossible, puisqu'elle en a détruit les éléments conservateurs. Nous allons développer les suites nécessaires de l'émigration.